Troisième partie, chapitre 1. Les mois qui suivirent ce pénible moment furent un calvaire pour Nicole Ansel. Elle avait eu une réaction brutale de femme jalouse, manifestement trompée, mais aujourd'hui elle regrettait amèrement ses gestes. Elle avait des réactions imprévisibles, se trompait dans la délivrance des médicaments, dans les compositions, les conseils. Et quand elle collait les vignettes, elle songeait à ce passé récent, si merveilleux, qu'elle venait de briser. Elle perdait le sens du temps et de l'espace. En outre, et pour tout arranger, les premières nausées s'étaient manifestées. Elle avait pris lentement le masque de la femme enceinte. Tout se liguait contre elle. Elle revoyait ses parents à intervalles irréguliers, et remarquez bien qu'il ne voulait pas aborder un « quelque chose » qui les gênait. Nicole n'était plus allée voir les dames du Bon Secours. Madame Fessange était devenue distante. La clientèle la regardait d'une drôle de façon. On devait causer ici ou là. Elle se sentit l'objet d'une cruelle observation. En un rien de temps, la mort avait emporté un vieil homme auquel elle aurait pu se confier, dont elle aurait accepté les remontrances, qu'il aurait conseillé avec prudence et sagesse, mais qu'elle aurait pu aussi accuser d'avoir voulu reconstruire un fantasme trop ancien qui n'avait plus dès lors la moindre signification. Ah oui, cette sagesse qui avait fait la force de Dagobert, de sa jeunesse à elle et de son adolescence, elle avait certes disparu avec lui, mais en plus avec elle. Maintenant vieillie, elle vivait un désespoir non plus né d'un caprice d'adolescente, mais d'un constat. Dagobert aurait pu tout savoir, lui, et même tout comprendre. Mais il n'y avait plus de Dagobert, et même sa présence n'aurait pas changé grand-chose, tout compte fait. Elle avait perdu son amant, celui pour lequel elle aurait donné plus que sa propre vie, celui qui avait été et restait, malgré sa trahison, l'objet de sa passion, devenue d'autant plus forte qu'elle en avait joui, qu'elle avait découvert avec lui, par lui, grâce à lui, sa belle et douce féminité, son épanouissement physique, la beauté encore plus superbe de son corps. Cet amant, le père de l'enfant qu'elle portait, ce Charles, ce bel homme un tantinet fantasque, elle l'avait aimé comme on n'aime qu'une fois. Après avoir été celui du rêve, il était devenu le prince charmant de la réalité vivante, vécue, tangible. C'était vrai qu'elle l'avait redouté, qu'elle avait eu peur d'un commencement maladroit, brutal, raté, qu'elle avait eu peur de le perdre dès le début de leur retrouvaille si extraordinaire, faite de façon si imprévue. Non, en 2 mois et demi, elle n'avait pas récupéré ses 10 années de privation, de solitude. Nicole restait affamée de lui et lui reprochait même de lui avoir obéi, d'être repartie avec cette petite noire, somme toute bien mignonne. Quand elle l'avait chassée, il aurait dû la supplier de rester, lui dire que c'était une passade, une fantaisie, un amusement, qu'il regrettait, qu'il ne recommencerait plus, mais se garderait pour elle seule, qu'il était heureux d'un pardon. Dans ce cachot où elle s'était faite elle-même prisonnière, il n'y avait aucune lucarne pour éclairer un nouvel avenir, ne fût-ce que d'un vrai. Et cette fois, elle vivait dans l'obscurité du remords et mettait toutes les torts de son côté. Elle reporta son amour fou sur le petit être qui se nourrissait d'elle, qui commençait à bouger en elle par moments. Mais si mince, si élancée, quand on allait voir son ventre prendre un premier volume, que ne dirait-on pas des mœurs de la pharmacienne? À moins qu'elle ne trouve une solution efficace et rapide, sa situation et sa réputation deviendraient intenables. On ne lui pardonnerait pas d'avoir aimé en secret, de n'avoir pas laissé voir Sur la place, un amour légal, signé, estampillé, dans la mairie, à l'église. Un soir, elle songea qu'elle pourrait retrouver le docteur Lebaudet. Avec lui, elle avait été sèche et cassante. Pourtant, elle trouverait peut-être en lui un ami sûr, un homme gentil et accueillant, sinon compréhensif. Elle pourrait parler, dire son malheur et sa bêtise, recevoir une consolation au moins verbale. Mais elle redouta soit son ironie, soit qu'il lui proposa le mariage. Elle le savait amoureux. Mais l'était-il encore ? Au moins, lui serait fidèle, quoique avec les hommes. Mais en mariage, il faut tout partager. Or, si elle trouvait un homme capable d'accepter et de reconnaître son enfant, de son côté, elle n'accepterait pas de livrer son corps et son intimité à un père de substitution. Recevoir dans sa chair un autre homme que son Valentin lui semblait à l'avance plus que douteux, impensable. Faire l'amour sans amour. Elle osa imaginer que Christophe Lebaudet pourrait la souiller et la prendre selon sa fantaisie, jouir d'une intimité profonde occupée par une jeune vie dont il n'était pas l'auteur, la caresser. Quelle horreur ! Tout, mais pas ça ! D'ailleurs, elle aurait exigé de continuer à vivre chez elle, à dormir seule dans son lit, où se levaient encore tant de souvenirs, tant de voluptés partagées avec l'homme pour elle unique, irremplaçable, si bon, si doux, qui lui avait offert le paradis du plaisir enfin partagé. Les pleurs, l'angoisse et la misère morale devinrent son lot quotidien. Il fallait qu'elle retrouve Charles. Il était le seul être dont elle pourrait aimer la présence auprès d'elle, le seul pour qui elle se ferait belle et désirable, le seul avec lequel prendre des repas en tête à tête. Il était un homme gai, imaginatif, spirituel, gentil. Et puis il était le premier, celui qu'une femme n'oublie jamais, celui qui possédera toujours la première place, qui sera là dans tous les moments, qu'elle gardera au fond d'elle, corps et âme. D'ailleurs, il était en elle, sous la forme déjà insensible de son enfant. Elle pensa encore qu'elle pourrait aller voir les frères Lafriche. En tout, ils avaient été admirables, exigeants, mais généreux. Ils lui avaient trouvé de l'argent, une officine, des investissements à des taux acceptables et qu'elle remboursait sans problème. Il lui donnerait une marche à suivre et leur métier les rendait comme des puits à même de protéger les aveux les plus compromettants. Pendant la plus mauvaise période de sa grossesse, il trouverait quelqu'un pour la remplacer à l'officine pendant un an, par exemple. On la dirait en voyage à l'étranger pour étendre ses compétences dans des domaines spécialisés. Elle aurait le temps de se retourner, comme on dit, de mieux préparer l'avenir de son enfant et le sien. Mais à sa troisième demande, ils allaient peut-être attendre d'elle un salaire d'une autre nature. Et cette idée la fit frémir. Et puis, si elle ne cédait pas, elle perdrait probablement tout le reste, et avant tout, leur précieuse confiance. L'image de Charles Gibou hantait en permanence ses journées et ses nuits. Il fallait absolument qu'elle le retrouve. Elle n'en dormait plus. Elle irait aux Essarts. C'était là qu'il avait dû sûrement revenir, flanqué de sa nymphette, de sa petite gamine vicieuse. Évidemment, il avait forniqué avec elle, avant. Il l'avait eue dès sa fleur, elle aussi, probablement. Ah oui, les fruits à tantinet acide. Les petites noiraudes, ça vous entortille un bonhomme avec des recettes imparables qu'elles savent dès le berceau. dès que leurs seins peuvent rayer les vitrines, dès qu'elles connaissent les breuvages à ressusciter les morts. Leur seule vraie drogue, c'est l'amour, et elles s'y entendent sur tous les diapasons. Un soir, épuisée par ses angoisses, elle décida qu'elle se rendrait aux Essarts. C'était irrévocable. Elle se montrerait douce, aimable. Elle demanderait pardon à Charles d'avoir été inconséquente, plus jalouse que sa première femme. Elle s'humilierait au besoin, promettrait tout ce qu'il voudrait et se soumettrait à tout ce qu'il exigerait d'elle. Irait jusqu'à perdre sa dignité, mais elle ne pouvait plus vivre sans lui, comme ça, dans le désert du cœur et du corps. L'enfant qu'elle portait devait avoir son père à lui. Qu'au moins de temps en temps, il vienne vivre auprès d'elle et de cet enfant, leur enfant. Ça ferait taire les langues. Nicole accepterait qu'il aille parfois voir sa petite noiraude. À l'homme de sa vie, elle épargnerait des remarques désobligeantes. Qu'il est un ménage à trois pour des plaisirs agréables et réguliers. On ferait des commentaires, mais on dirait que c'est à la mode. Elle n'en pâtirait pas trop. Avec les années, voyant que Nicole tolérait ses frasques et sa passion dispersée, qu'elle avait de lui un enfant beau comme tous les enfants de l'amour, il finirait par choisir de rester, tout près, heureux, paisible et rassasié. On se marierait, surtout pour le meilleur. Son ventre commençait à se bomber en son sixième mois. Elle mettait des robes plus vagues, sans ceinture. À 10 heures du matin, lundi, elle partit pour aller aux Essarts, comme décidé, faisant un effort plus rude que de soulever un quintal. D'abord, elle demanda Charles Gibou, mais une des vieilles femmes lui dit qu'elle ne connaissait pas d'homme de ce nom. Après, elle se souvint du nom d'emprunt et demanda si Antoine Juvin était là. La vieille resta bouche bée, mais se reprenant, elle appela une autre femme qui, en réponse à la question, se mit à rire. Comme Nicole insistait, la femme lui répondit qu'Antoine était parti pour l'Afrique avec Bouli Bouli. « Ça faisait plusieurs mois, madame. » Nicole sentit dans son ventre une très forte contraction qui la contraignit à s'asseoir proche de la syncope. On la releva, et tant bien que mal, elle rentra rue du Cadran solaire, et quand elle put enfin se laisser aller dans son fauteuil, elle eut une crise de larmes qu'elle pensa ne plus pouvoir arrêter. Elle était donc définitivement seule et abandonnée à un sort qu'on ne souhaite pas à son pire ennemi. À 2 heures du matin, Nicole sentit qu'elle allait mal, et quand elle se leva, elle perdait les os. Dans la salle de bain, 2 contractions violentes la plièrent en avant. Elle dut s'asseoir sur le carrelage. Une autre contraction la fit presque hurler de douleur. Elle se traîna jusqu'au salon pour appeler Christophe Le Baudet, qui mit une interminable demi-heure avant d'arriver. Nicole eut honte de se faire visiter par lui, de découvrir son intimité devant un homme qui lui avait avoué naguère son amour. « Mais je crois bien, mademoiselle, que vous faites une fausse couche et que... Et que vous ne pourrez pas garder votre enfant. Vous savez assez de médecine pour vous en douter. » D'autres femmes ont connu ce malheur, mademoiselle. Vous aurez la force d'y résister. Et puis, il le faudra bien, n'est-ce pas? Le docteur Le Baudet ne quitta pas Nicole. avertit Madame Fessange d'ouvrir seule pendant une huitaine au moins pour cause de grippe sévère de Mademoiselle Ansel, et qu'on ne la dérange sous aucun prétexte. Le matin même, le docteur réussit à la délivrer sans avoir à la conduire à l'hôpital ni lui dire le sexe de l'enfant. Nicole se releva de cette épreuve qu'elle jugea encore plus terrible que tout ce qu'elle avait subi au cours de ces derniers mois, depuis qu'elle avait chassé de chez elle son infidèle et maître amant. Elle reprit des heures de présence à la pharmacie, racontant aux clients, curieux ou sincèrement inquiets, qu'elle avait eu une pneumonie galopante dont elle se tirait, somme toute, assez bien. Les antibiotiques faisaient des miracles. On la consola, on la félicita, on loua le docteur Le Baudet. Bref, dans la pharmacie du Chapeau Rouge, on ne parlait plus à Nicole et à sa préparatrice que des talents de ce docteur qu'on avait bien de la chance d'avoir dans la ville, et qu'il était charmant et qu'il était toujours célibataire, et que celle qui le prendrait pour époux serait une femme enviable. Oh, mademoiselle, si vous saviez comme il est aimable. Et puis qu'il n'est pas mal fait de sa personne, ça pour ça, on ne peut pas dire le contraire, et que bien les jeunes filles seraient fières d'être l'heureuse élue. Et l'on nous a répété, mais sous le sceau du secret, que vous le connaissiez bien. Non, mais votre pharmacie doublerait sa clientèle, lui ses patients. Vous n'allez tout de même pas rester indéfiniment dans la solitude à votre âge. Vous passeriez vite pour une vieille fille acariâtre. L'amour vient avec l'usage, comme disaient nos vieux parents auxquels on n'avait pas toujours laissé le choix. Christophe Le Baudet reprit espoir. Il n'avait rien su de ce qui avait bien pu se produire, de la présence secrète d'un certain Charles Gibou, mais ce n'était pas un jean qui avait engrossé Nicole. D'autre part, l'absence de tout homme rue du Cadran solaire pendant la semaine où il était passé le voir plusieurs fois par jour et sans prévenir, avait fait que le docteur s'était douté d'une aventure sans lendemain, suivie d'une malchance. Il n'avait posé aucune question à Madame Fessange, laquelle ne lui aurait pas répondu, même si elle avait été au courant. En vertu du serment d'Hippocrate, la pharmacienne ne lui avait pas expressément demandé de se taire. Par la suite, comme le docteur était parfois revenu par hasard ou par surprise pour suivre la convalescence, mais n'avait rien remarqué, sauf que Nicole avait glissé entre deux phrases que la leçon était bonne, il déduisit que celle qu'il osait encore aimer en silence avait dû nouer puis rompre. Dans la ville, personne non plus ne savait ni n'avait cherché à connaître la vie cachée de Mademoiselle Ansel. En avait été l'une. Et puis le secret professionnel du docteur la mettait en principe à l'abri. On avait pensé qu'il s'était passé quelque chose, un malaise, comme il en arrive à tout le monde, un excès de fatigue qui n'aurait rien eu d'étonnant, mais on ne peut dire que couraient les médisances au sujet de la pharmacienne. En doute, ce qui protégeait Nicole, c'était qu'on avait d'elle une haute idée de sa droiture. L'enfant du pays ne prêtait le flanc à aucune allusion mauvaise. On l'admirait encore et toujours pour sa réussite, et on aurait même pardonné ses écarts si on les avait su. Nicole, pourtant, avait sans cesse en elle cette autre hantise que le docteur revienne pour déclarer une flamme toujours vivace et profiter de ce qu'il savait pour lui faire un chantage. Ceux qui la connaissaient bien lui parlaient souvent de mariage, qu'il était dommage qu'une aussi jolie fille de 29 ans ne cherche pas à faire comme tout le monde, que les célibataires finissent par se racornir et que plus les femmes prennent de l'âge, plus il est difficile d'avoir des enfants. Elle pourrait transmettre la pharmacie, une vie de famille présente toujours un côté enrichissant. Bien sûr, ses parents n'avaient pas été pour elle un exemple, mais elle prouverait, elle, que son passé douloureux avait quitté sa mémoire. Elle était accueillante à tous, souriait, écoutait, on le sait, et cela ne lui facilitait pas la tâche, car on croyait lui faire plaisir en lui parlant d'elle, en voulant la guider vers le bonheur. Elle eut parfois quelques impatiences, répondit gentiment mais fermement que sa vie ne regardait qu'elle. On s'entêta pour lui proposer des parties, que tel fils de famille avait son âge, que tel autre avec ses 30 ans se morfondait en pensant à elle. De jeunes et beaux garçons la harcelaient, et certains d'entre eux ne voulaient s'adresser qu'à elle pour entendre les modes d'emploi en préservatifs et gels divers. Quel produit choisir pour un massage, et que faire pour des irritations, des éjaculations précoces, des érections permanentes. Le métier présente des avantages et des intérêts incontestables, mais exige une patience que peu de gens arrivent à estimer. Nicole continuait d'être attentive, sans chercher à voir chaque fois des intentions malignes ou des déclarations ambiguës. Elle était appliquée, sage, bienveillante. Mais les gens ne pouvaient pas discerner dans quelle geôle sentimentale leur pharmacienne tentait de survivre sans laisser rien transparaître. Elle répondit de nouveau aux invitations d'amis fidèles, discrets et dévoués, à celles de ses parents. Elle renoua, si l'on peut dire, avec les Dignac et ses longues conversations avec son vieux professeur sur des problèmes de physique eurent sur elle quelques effets bénéfiques. Elle retrouvait ainsi des distractions, des occasions de recherche, si bien qu'elle voulut un moment se relancer dans des études plus poussées de biologie moléculaire. Pourtant, elle n'eut pas le courage de les poursuivre. Elle était rapidement fatiguée, découragée, se promettait de commander des livres, oubliait. Monsieur Dignac s'en occupait, prêtait, mais ses livres complexes, ses dossiers approfondis qu'elle feuilletait d'abord, finissaient par rester sur sa table. Elle parcourait, prenait quelques notes qu'elle égarait, en se répétant entre les lignes des « à quoi bon ?» s'endormait dans son fauteuil où elle se réveillait à 2 heures du matin, revivant chaque nuit cet instant fatal où son Charles était venu la prendre dans ses bras et l'avait emmenée vers la femme qu'elle était aujourd'hui. Elle regardait alors dans la direction de la porte de son salon, mais il n'y avait personne. Valentin Lenoir n'y apparaissait pas, appuyé au chambranle, ne venait plus la ravir pour lui redonner dans leur chambre les joies d'une infinie tendresse. Elle eut des hallucinations, gémissait dans l'irréalité de sensations fugaces ou morbides, exprimait des plaintes interminables à revoir en songe cette petite salope avec ses petits nichons en pointe d'obus, tout noir et agressif, qui lui avait volé son bien, qui plus est, en s'asseyant dessus, en lui susurrant un air composé pour faire rôter les nourrissons. Et ce salaud, le Charles, qui devait se l'enlever et l'autre se l'emmener à 2 heures du matin sur des plages tropicales, et puis rugir ses voluptés plantées dans une viande compacte qui sent le sauvage et la peau de banane. Dans son mouchoir trempé de larmes ou de sueur, elle étouffait les cris de bête farouche ou traquée. Elle avait perdu son mâle, elle avait perdu son petit, son autre amour, sa plus douce espérance. Elle était devenue jalouse, haineuse, toujours plus trempée par un amour d'autant plus exacerbé qu'une autre, et il fallait voir quoi, elle lui avait pris par des moyens sans nom. Vers les 3 heures du matin, elle se retournait dans son fauteuil, et arrivait à s'y rendormir. Ou bien, lasse, elle revenait à ce lit qu'une fois elle voulut vendre ou donner pour s'en acheter un nouveau. Mais pff, qu'est-ce que ça changerait? Sa chambre serait encore sa chambre. Le même espace, maintenant tragique, où elle avait tant donné, tant reçu, tant aimé. La cuisine serait identique aussi. Cette table fétiche du salon, sur laquelle tant de fois Charles avait installé les couverts, préparé des surprises, et ses cocottes en papier qu'elle dépliait fébrile pour lire un « Je t'aime » entouré de pétales collés qu'il avait pris à des bouquets. À son tour, elle constatait que son cerveau devenait une sorte de trou au fond duquel il menaçait de n'y avoir plus rien que des ombres, de vagues crépuscules, des drapés et filets de nuages en fuite vers d'autres horizons indistincts, pâles, délavés, désertiques, glacés. Ce trou sans remords, sans horizon, se creusait tout seul, lentement, patiemment, régulièrement, indéfiniment. Dans son fort intérieur, Lavasse, Nicole voyait dégringoler les uns après les autres les gravats de son âme. Comme hagarde, elle distinguait des fêlures dans son esprit, sentait qu'une désintégration sournoise préparait en elle un programme de mort comme le salpêtre pourrit les plus belles mosaïques. L'avenir autant que le passé perdait leur sens. Sa vie devenait automatique autant que la démarche de Charles Gibou quand il passait autrefois dans la rue des Lilas. Certains lundis, elle alla dans le jardin d'hiver pour y errer à la recherche de ce monde éteint que Charles y avait trouvé à cette époque où il retardait le plus possible son retour à la maison. Mais quand elle reviendrait rue du Cadran solaire, elle ne trouverait pas même un ennemi à subir pour avoir ne fût-ce qu'un semblant de guerre, sinon un sujet d'occupation à défaut de scène qui aurait pimenté son existence. Elle envisagea de se le fabriquer, cet ennemi. Si le bon docteur Lebaudet l'invitait, elle répondrait favorablement. Elle irait de nouveau dîner avec lui, peut-être au Renard Bleu, où l'on disait que se déroulaient rencontres de cocus et parties fines. Elle se montrerait souriante, douce, séduisante. Il croirait que cette fois elle avait changé d'avis et il se bercerait d'espoirs très déraisonnables. On les verrait à table et l'on se prendrait à parler avec de bonnes raisons. Elle lui ferait faire des dépenses, lui fabriquait en rêve et savamment des lendemains qui chantent, de longues nuits lascives. Oui, c'était ça. Il faudrait qu'il paye très cher la solitude de Nicole. Mais pourquoi lui? Oh, elle aurait été incapable de le dire. Elle l'avait arbitrairement choisi comme victime facile de sa vengeance contre Charles, donc contre tous les hommes. S'il se laissait ramper vers quelques approches précises, qu'elle aurait bien sûr favorisées, au bon moment, elle dirait « Oh là, pas de touche !» mais continuerait son amusette cynique, car elle se mit à porter à la faute de l'homme tout ce qu'elle souffrait. Ça pourrait être drôle. Quand on est égaré sur un terrain de misère, dans un arctique des sentiments, on fait feu de toutes les distractions. On s'égaille autour de l'autre à le voir charger ses boulets, mais on a mouillé la poudre. On don Juan à tout craint. Si le jeu est cruel, au moins il est un jeu, d'autant plus drôle à regarder perdre l'adversaire. On laisse entendre que ça chauffe et l'on ajoute à mon merveilleux ami qu'il est encore loin du compte. Qu'après tout, cependant, Ça fait qu'on peut rentrer enfin chez soi avec un sujet de rire, s'endormir paisiblement après avoir fait un joli tour de passe-passe, une de les pfites, et le naïf qui boira les sous-entendus, qui se dira « Bon vieux Christophe, tiens bon la robe pour ce soir, le meilleur de l'amour c'est quand on monte l'escalier, mais si tu ne déçois pas, ton avenir est fait. » Ah, ma bonne Nicole, tu as vraiment des idées géniales. Pour t'occuper, tu ne dois plus seulement faire des projets. Il faut agir, te décider, provoquer l'occasion. Pendant quelques mois après l'accident, le docteur espéra trouver l'oubli. Mais il n'était pas facile de ne plus penser à une femme comme Nicole, en laquelle il avait toujours vu l'image vive de la beauté, de la culture, de la sensibilité. Passant 2 ou 3 fois par mois à la pharmacie pour parler médicaments, il avait fini récemment par remarquer que Mademoiselle Ansel reprenait du goût pour l'élégance. Elle lui disait enfin les choses sur un ton qui n'avait plus rien de glacial. Au contraire, il sentit vaguement qu'il ne fallait pas trop attendre avant de reprendre l'initiative. Il invita Nicole à dîner pour renouer un peu, lui dit-il, le fil de l'amitié. Elle ressentit ce plaisir que l'on éprouve à voir un bouchon qui s'agite, s'en va sous l'un des herbiers, file vers le milieu de la rivière. Elle fit des mines, reprocha au docteur, timbra ses mots de complicité, de lui forcer la main. Elle acceptait sous la condition que ce fût ailleurs qu'au Renard Bleu. Le docteur suggéra une auberge isolée à 30 bons kilomètres pour une soirée intime avec des musiques douces. On fixa la date. Nicole, voulant roder ses armes, prépara, comme on dit, le paquet. Rimmel, phare, une raie débordant d'un seul côté la vague de ses cheveux, porte-jartelle, bas voilé à bandeaux de dentelle, rouge aux ongles, seins nus sous un chemisier noir fort transparent, jupon court et jupe fourreau fendu sur le devant jusqu'au bandeau. Des bas, veste 3/4 marmotte, pochette en crocodile, macaron, voilette à mouche. Mais l'excès peut conduire à la méfiance. Elle ne prit donc pas sa propre voiture, monta dans l'auto du docteur pour mieux dresser le constat ou le provoquer. On démarra, on arriva, on dîna. Le docteur cherchait subrepticement à faire boire Nicole, qui par des ruses de Sioux vidait les 3/4 de ses verres dans le pot de fleurs et fit penser assez vite qu'elle était suffisamment pompette pour une partie riche en douceur. À la table ronde où il s'était assis en angle, entre les plats, elle pivotait vers lui, croisait et décroisait au plus haut des ciseaux d'allumeuse, riait aux anecdotes osées en agitant des seins pulpeux à peine nimbés et conduisait le docteur à s'éponger les tempes. Les rires de notre pharmacienne en dissimulaient un autre, nerveux et calculateur, qui attendait de ramasser les plis d'un grand chelem avec le seul mort pour face à face. Elle réussit à vider au sol le cognac qu'il avait commandé comme bouquet final avant les festivités, car il comptait sur des voluptés prolongées et terminer sa nuit dans les bras si longtemps convoités. C'est ainsi que, juste avant minuit, il se leva sous prétexte d'aller régler la note, ce qu'il n'avait jamais fait au Renard Bleu. Sans rien manifester, Nicole s'en étonna, d'autant que la conversation durait avec le patron. Quand le docteur revint avec la veste de Nicole sur son bras, il se rassit quand même, demanda à la main gauche de son invité superbe et glissa à son annulaire un splendide et gros rubis en mandorle couronné de diamants. Nicole montra une gêne de convenance, sourit tendrement avec un œil prometteur. Ta chère amie, lui dit-il, quel plaisir vous me faites. Je vous sens fatiguée. Voulez-vous accepter d'aller vous reposer? Je viens de retenir une chambre pour votre goût. M'y accompagnerez-vous? Mais pourquoi pas? Répondit-elle avec regard coquin et bouche complice. On monta au premier étage. La chambre était luxueuse, chaude, de grands rideaux rouges, sombres à la porte-fenêtre, un lit à ciel garni des mêmes tissus, des draps en satin rose à grands festons, des tapis, des fauteuils de style, des lumières tamisées. « C'est très beau !» dit Nicole en égrenant un rire irrégulier qui émut fort le docteur. « Je vois que vous savez choisir !» Il la croyait mûre et s'approcha d'elle d'un air où perçaient des désirs évidents. Nicole reprit sa veste de fourrure et la mit en ajoutant « Non, non, je crois que je préfère mon appartement. Allez, emmenez-moi, s'il vous plaît. » Elle remonta en voiture de sorte que ses cuisses gainées de voile soient bien découvertes et ses genoux peu serrés. Le docteur, déçu mais plus impatient d'arriver à l'appartement, quittait souvent des yeux la route, regardait amorces et à pas, essayant d'entretenir l'ambiance par des anecdotes osées. Puis il arrêta sa voiture sur un refuge, mais Nicole comprit la manœuvre. « Docteur, lui dit-elle sèchement, si vous tentez de me forcer, je dépose plainte contre vous pour viol aggravé et la ville sera fixée sous vos méthodes élégantes. Vous me reconduisez chez moi tout de suite. » Le silence fut total jusqu'au bout. Devant le 2, rue du Cadran solaire, le docteur descendit et vint ouvrir la porte à Nicole, qui se leva dans un jeu de jambes à faire mourir un ermite. À peine debout, alors que le docteur s'attendait à se faire inviter, elle ôta la bague et la déposa sur le siège qu'elle avait occupé. « Je vous remercie, docteur, pour cette soirée dont je me souviendrai. Mais voyez-vous, je n'aime pas les cadeaux, encore moins les commerçants. Sachez-le, je ne suis ni une prostituée ni une femme entretenue. » Le docteur tenta en vain de répondre. Elle alla tranquillement ouvrir sa porte et la referma avec un adieu ironique qui laissa sur le trottoir le docteur stupéfait. Christophe Le Baudet resta quelques minutes, les bras le long du corps. Allait-il sonner pour implorer et lui dire qu'elle n'avait pas compris ses intentions ? Se déclarer pur et plein de respect pour celle qu'il aimait d'une passion sincère. Il contourna sa voiture, vit que la lumière était allumée chez Nicole. Il s'assit derrière son volant et partit dans le plus grand désarroi, trop amoureux encore pour en vouloir à la jolie cruelle qui lui avait envoyé un si méchant camouflet. Tout compte fait, Nicole n'avait pas vraiment trouvé l'ennemi désiré. De son côté, Christophe Le Baudet avait eu une occasion de retourner à Paris pour y rejoindre un nouveau cabinet. Il disparut de l'horizon de notre pharmacienne après lui avoir présenté plusieurs fois ses regrets, l'avoir assuré de son plus tendre souvenir auquel elle resta insensible. La vie s'était refaite pour elle comme une existence au jour le jour, avec ses travaux, ses comptes, sa neutralité, ses routines. Elle ne prenait jamais de vacances, ne fermait jamais, sauf le dimanche. Elle s'enfonça régulièrement dans un ennui chronique. On la considéra comme une semence de vieille salade, montée en graines, lardée de complexes, rigide, probablement coincée par la raideur du parapluie dans l'œsophage, réaction à une éducation inexistante. Certes, elle gardait sa haute réputation de compétence et de gentillesse, mais elle ne vivait pas, espaçait de plus en plus ses visites ou ses relations, trouvait des excuses auxquelles on croyait de moins en moins. En vain, on la surveilla pour tenter de la surprendre ou de comprendre. Il fallut se rendre à l'évidence qu'elle vivait un célibataire sans remède. En vain, on la soupçonna d'homosexualité, mais dans ce domaine encore, on resta déçu. Le mystère finit par lasser. Les on-dit truffés de commentaires firent long feu et les bonnes familles perdirent amèrement l'espoir de l'avoir épousée, car, sauf malheur imprévu, une bru pharmacienne vous garantit l'avenir pour le fils chéri qu'on a viré de toutes les institutions. Tristement, on la vit gagner ses premières rides, accompagnée d'une raideur farouche. Pourtant, si on avait pu errer dans son cerveau, à chaque pas, on aurait trouvé l'image de cet amour insensé qu'elle nourrissait fidèlement. Charles-Maxime-Irénée Gibou n'avait quitté ni sa mémoire, ni sa sensibilité exacerbée. Dans sa chambre et à la place de la bibliothèque de littérature qu'elle transforma, elle fit monter un placard mural à plusieurs portes, muni de grandes glaces en pied pouvant fermer au moyen de clés de sûreté. Nicole y fit mettre un ensemble de rayonnages et une autre partie en penderie. La moitié des rayonnages fut réservée à son linge courant. Dans l'autre, elle rangea précieusement les deux sous-reliques dont elle avait fait les folles emplettes pendant le temps que son Charles avait vécu près d'elle. Résurrection de cette période merveilleuse, certains soirs, elle mima ce qu'elle avait été à l'époque bénie de ses amours. Parfois, traînant dans la salle de bain, nue, elle faisait une émouvante toilette de sa beauté, remémorait son impatience, passait la chemise de nuit en voile de nylon rose, laissait aller en vagues nonchalantes ses cheveux parfumés de santal, allumait le seul couloir, se remettait en chien de fusil sur le fauteuil du salon et se parlait toute seule, s'inventant une nouvelle virginité que Charles viendrait cueillir par la douceur. Et comme Charles ne se décidait pas à venir la prendre dans ses bras, elle se levait bien droite, les mains croisées sur sa poitrine sans tache, et se rendait dans sa chambre, pour s'offrir d'elle-même en rêve à une nouvelle première fois, maintenant idéalisée. À d'autres moments, elle remettait l'une ou l'autre de ses deux guêpières, avec les mêmes bas, passait sa veste de marmotte, chaussait ses talons Louis XV, et s'asseyait sur son lit, face aux glaces, pendant des poses lascives et plus que provocantes. Et comme elle ne manquait pas totalement d'humour, lorsqu'elle refouillait dans toute sa lingerie qu'elle avait achetée du temps de Charles, elle se regardait dans la glace de la salle de bain, elle se traitait d'andouille grimée au carnaval du cul. Ou bien elle installait deux couverts sur la nappe des retrouvailles, servait les deux assiettes et dînait deux au plat avec de l'échalote râpée, parlait de son admiration pour Dagobert à un invité imaginaire qu'elle arrivait à recréer, à distinguer nettement près d'elle et auquel, en radotant, elle racontait sa jeunesse tourmentée, travailleuse, remplie de l'espoir fou qu'un jour elle retrouverait l'homme de toute sa vie. Il était ici-bas, sa justification, son motif unique de respirer. Toutes les scènes qu'elle se jouait finissaient par l'épuiser en délire, proche de la schizophrénie, au point que de nouvelles hallucinations se mirent à l'habiter, non pas causées par une douleur récente, mais voulues, mais souhaitées, parce qu'elle comblait sa solitude. Et cela se répercutait sur les traits de Nicole, sur ses gestes quotidiens à la pharmacie, sur ses expressions et son allure, sur son langage qui semblait lui aussi devenir de plus en plus flou. Monsieur Régis en fit la remarque à Nicole, car il était un homme calme et serein qui pouvait se permettre de parler à notre pharmacienne en des termes de complicité. Régis Vergès était client de Nicole depuis l'ouverture de la pharmacie du Chapeau Rouge. C'était un homme curieux de science et tout particulièrement de botanique. Ancien employé de la ville et collègue de Ferdinand Ancel, il avait connu Nicole depuis son enfance, l'appelait par son prénom, la tutoyait affectueusement, et Nicole l'appelait Monsieur Régis. Il avait perdu une épouse toute jeune qui s'était électrocutée, et comme il ne s'était jamais remis de cette mort tragique pendant près de 35 ans, il était resté un veuf inattaquable. De sa femme, très jolie et adorée, que le passé avait élevée au rang de déesse, il préservait un souvenir vivant, omniprésent, obsessionnel, et chaque jour elle ressuscitait, disait-il, dans la beauté des plantes. Il va sans dire que les études de Nicole lui étaient précieuses. Il venait de prendre sa retraite à 58 ans, vivait, dormait, déjeunait dans une grande serre chauffée, où il caressait les espèces tropicales les plus rares, les fleurs de montagne les plus belles, les greffes les plus inattendues. Nicole vint plusieurs fois le voir pour admirer ses recherches et ses cultures. Il était doux et tendre, méticuleux, parlait à ses végétaux le langage de l'amour et de l'affection apaisante, tel ce personnage d'Alexandre Dumas qui inventa la tulipe noire. Nicole en était bouleversée. Un jour, elle réussit à le faire parler de cette épouse qu'il avait perdue il y avait 35 ans. Monsieur Régis raconta pour la première fois le coup de foudre commun, leur mariage, la passion qu'il avait vécue avec sa douce Adeline, ses pauvres souvenirs devant des photos suragentées ou jaunies. Nicole ne put se retenir de se confier à lui. Il fut à son tour la seule personne qui sut la ferveur amoureuse qu'elle nourrissait encore, le malheur dont elle souffrait, ses démences passagères, ses hallucinations, ses rêves et une tentation de suicide qu'il avait déjà effleurée. Elle lui révéla un peu de son histoire. Lui aussi avait bien connu Dagobert et les Essarts, où il allait parfois questionner l'Africain sur la flore de la Guinée équatoriale. Souvent, il était allé dans cette folle étrange qui vivait là-bas, et il avait eu l'occasion de parler à ce barbu bizarre que Dagobert faisait passer pour son fils, ce dont M. Régis n'avait pas osé donner un instant parmi tous ces gens vivant de fric, briques et de broc. Et à cette évocation, Nicole avait fondu en sanglots. Régis Vergès avait pris sur son épaule le visage gonflé de Nicole, qu'il avait serré dans ses bras. Charles Gibou était encore en vie, certainement, lui ailleurs, certes, mais bien vivant. Alors qu'Adeline ne reviendrait pas. « Mais tu verras, ma jolie fille, Il te reviendra, l'époux que tu attends. Il ne peut pas ne plus t'aimer. Vous étiez fait l'un pour l'autre. Tu as un coup de tête bien pardonnable. Nous sommes tous si peu de choses que lorsque nous tenons un bonheur, la seule ombre prend des proportions que nous exagérons comme un plaisir. Mais à toi, ma toute belle, la déraison de l'espoir est permise. Tu me comprends ? Oui, monsieur Régis, répondit-elle entre les hoquets de douleur qui secouaient son corps plus maigre et fragile. Je te remercie, ma belle enfant, de m'avoir fait une telle confiance. Et puis, tu vois, nous ne serons plus seuls tous deux à porter chacun une croix. Ta confidence reste dans mon cœur et tu le sais bien. Je me sens maintenant plus léger et je te soutiendrai de toutes les forces qui me restent. Comment voudrais-tu que ton vieux monsieur Régis ne t'aide pas dans ce mal d'amour que nous partageons ? Et comme M. Régis sentait que Nicole, très émue, ne tenait plus bien sur ses jambes, il la conduisit vers deux chaises où ils s'assirent. Il tamponna ses yeux, la consola, essaya de la raisonner sans trop délayer le discours. Il reprit la narration de ses visites aux Essarts, l'expérience qu'il avait acquise là-bas d'une certaine sagesse, les autres rencontres qu'il y avait faites, le mystère de ce fils préféré de Dagobert. Alors vous êtes bien sûr qu'il me reviendra, lui ? Demanda Nicole un peu calmée. Mais oui, ma belle enfant, ma belle Passiflore. Oh, Passiflore, qui moi ? Oui, ma jolie. Pour moi, elle est la fleur la plus belle de la création. Mais comme toi, elle porte une croix formée par ses pistils. Cette croix finit par tomber, et c'est à ce moment que la fleur s'épanouit pour devenir un triomphe de splendeur dans la nature. Oui, je sais, il y a des fleurs bien plus célèbres, grandes en taille et en fruits, et l'on ne tarit pas d'éloges à propos des orchidées pour lesquelles on donne des prix fous. Et pourtant, allez, lève-toi, marche avec moi là-bas, jusqu'au fond de la serre. Je vais t'en montrer trois. Je les cueillerai, tu les emporteras chez toi, et tu penseras très fort à ce que je t'ai dit. Tu veux ? Oh non, surtout pas, monsieur Régis. Oh non, ne les coupez pas, j'en serais encore plus malheureuse. Oh, s'il vous plaît, ne les coupez pas, non. Bon, nous ne les couperons pas, promis. Viens les voir quand même. Et quand tu les auras bien regardés, tu verras ton espoir et ta beauté dans leur simple calice. Nicole regarda, vit, aima les trois passiflores, et dans les trois corolles, sa beauté se refléta. Elle était venue à pied chez M. Régis. Pendant son retour, elle sentit qu'elle était aimée autrement que par les affections de l'habitude ou du devoir. Elle se sentit moins seule, moins incomprise. Elle avait pu parler, dévoiler sa misère et son regret. Régis Vergès. Elle avait été tellement touchée par son émouvante histoire qu'elle éprouva pour lui tout à coup un sentiment indéfinissable de respect auquel se mêlait de l'inclination. Elle trouvait que tous les deux avaient ce point commun d'être fidèles par essence, passionnés par la vie et l'expansion de soi. Il venait d'être si tendre avec elle qu'elle laissa plaisamment trotter l'idée qu'il était amoureux d'elle et avait voulu traduire le mouvement de son cœur par leur ressemblance dans la peine. Il était si pur, si noble, cet homme de petit peuple, si délicat, si attentionné, et dans son genre, il était devenu un grand savant. Mais Nicole se trompait sur la qualité rare du sentiment que M. Régis lui portait. il aurait pu ressentir les séductions féminines de celle qu'il appela désormais Passiflore. Mais l'amour irremplaçable de sa vie avait été Adeline. Un amour d'un autre ordre, dont la trace profonde à jamais marqua sa pensée. Et puis Adeline était là, il lui parlait, chaque jour que le bon Dieu fait, partageait avec elle ses joies simples et naïves, ses étonnements devant la levée d'une graine ou les jaspes d'une pâquerette. Nicole continua lentement de se refermer et de maigrir. Seule, presque toujours, elle mangeait peu, fatiguée à l'idée de se faire de la cuisine. Une sardine, 4 feuilles de salade, une boîte de haricots verts qu'elle ne finissait pas, un demi-œuf dur au jus de citron, de l'eau minérale. Autant elle avait eu jadis la santé allègre et le plaisir des bonnes choses, autant elle se voyait devenir anorexique et dégoûtée de tout. Quand elle invitait 1 ou 2 fois par mois, elle avait tout commandé chez son traiteur et se forçait à quelques bouchées pour qu'on ne lui posât pas de questions. Elle ne recevait plus que le soir. On la quitterait à 11 heures par politesse, et après le départ de ses amis ou de ses parents, elle pourrait aller rendre son indigestion. Elle se pensa rongée en sourdine par un cancer de l'estomac. Son cœur ne battait que faiblement. Sa tension passa progressivement au-dessous de 10. Sa vue avait des chutes d'acuité. Elle avait froid, la main glacée. Ses seins perdirent très sensiblement de leur pulpe. Il lui fallut des couvertures par temps chaud, presque autant qu'en mois d'hiver. Elle ne voulait pas consulter, préférant une mort lente à une folle survie gorgée de désespérance. La voyant ainsi dépérir et se dégrader, ses parents lui firent remarquer qu'il souffrait beaucoup à la voir ainsi. Sa mère, qui avait été tant admirée sa réussite, qui avait été si orgueilleuse de sa fille, se remit à la brusquer comme elle avait rudoyé l'enfant. Sachant que Madame Ancel était peu discrète et bavardait partout, elle gardait son secret. Certes, Louise était sa mère, mais les souvenirs de jeunesse ne poussaient guère la fille à s'épancher auprès de la femme qui aurait dû tout savoir. Et tout savoir la première, afin de soulager et surtout de comprendre l'incommensurable chagrin de sa petite. Avec son père, Nicole n'avait pas plus envie de parler. Il était ce qu'il était, mais rugueux, empâté. Il lui aurait dit que toutes ces conneries passeraient avec le temps. Et puis qu'elle se marie une bonne fois, nom de Dieu, qu'elle fasse des mioches, et que ça l'occuperait. Quand on cherche, on trouve, et alors, peu importe elle, Marie, l'amour, ça vous vient avec la pratique, et puis, pour une femme, c'est pas le bonhomme qui compte, mais les boutards. Seul Régis Vergès s'inquiéta sérieusement et se demanda ce qu'il pourrait bien entreprendre pour cette jeune femme qu'il aimait d'affection soucieuse. Peu bavard, observateur rigoureux et par conséquent femme psychologue, il eut la première idée lumineuse, chose rare en notre siècle, de demander à Nicole une nouvelle narration très détaillée de son histoire. Elle devait la reprendre lentement depuis ses 15 ans, à revoir tous les recoins, se contraindre à en saisir tous les oublis. On s'y attacherait même en plusieurs fois. Nicole s'étonna de cette suggestion bizarre et songea que c'était peut-être pour M. Régis une façon détournée de mieux la connaître pour pouvoir, grâce à ce chemin de traverse, lui déclarer une flamme cachée. Nicole était fort loin du compte, mais elle accepta de jouer ce jeu qu'elle considérait comme dangereux. Allait-elle perdre aussi cet ami excellent s'il lui proposait la vie commune et si elle refusait? Presque 30 ans de différence, ça faisait beaucoup. Elle était venue le voir un dimanche pour l'heure du déjeuner. On mangea quelques bricoles et l'on s'installa dans la serre. Comment non, pour le petit café, un rite de Monsieur Régis. Et jusqu'à 5 heures de l'après-midi, Monsieur Régis écouta Nicole. Elle était parfois inquiète du contenu et des interprétations éventuellement déformées. Ce fut l'enfance dure et bousculée, une adolescence monastique, cette inexplicable précipitation vers un homme qu'elle ne connaissait pas, l'amour romantique de l'impossible, puis le bac, les études en médecine qui tournèrent très vite en direction de la pharmacie, le chapeau rouge, Dagobert, les essarts, Charles, la fausse couche, le baudet. Elle parla par flots comme si elle ne pouvait plus s'arrêter. Elle rit, pleura, se reprit, continua, s'entêta dans cette expérience curieuse à laquelle elle ne croyait guère. Mais le jeu, c'est le jeu, on pousse au bout de la donne. Elle osa quelques détails gênants, à constater combien son grand ami de cœur était concentré, attentif, compréhensif, opinant parfois du bonnet, partageant ses larmes ou ses plaisirs. Quand elle eut fini le récit de ce qu'elle avait pu reconstituer de tout son passé sentimental, M. Régis se leva et dit à Nicole de venir avec lui rendre visite à ses nouvelles passiflores. Et puis il devait les arroser, leur raconter plein de choses, leur caresser les pétales. Une bonne demi-heure se passa en soins, aux fleurs, en tendresse. Alors il entoura d'un bras la taille frêle de Nicole, et continuant de regarder les passiflores, « De ton récit, ma toute jolie, je n'ai retenu qu'une chose, une seule qui a frappé mon cœur, et je vais te la dire si tu veux bien. Oui ?» Nicole retrouva cette appréhension qui remontait à quelque temps que M. Régis lui déclara un sentiment pur mais sincère et qu'il avait découvert dans Nicole une sorte de réincarnation de sa femme. Il venait de dire « qui a frappé mon cœur ». Nicole attendit. « Eh bien voilà, au moment de ton récit, tu m'as rapporté des paroles de Dagobert. Si je me souviens bien de tes mots, il t'avait dit « Quand je serai mort, vous emmènerez Charles auprès de vous. Il ne faut pas qu'il reste ici, vous vous marierez tous les deux, vous vous aimerez beaucoup et vous vous souviendrez ensemble de Dagobert. » Et une autre fois, il aurait dit à Charles « Non, je ne me trompe jamais. » Mais je ne vois pas ce que vous pourriez tirer de ces quelques mots, Monsieur Régis, dit Nicole en se détachant du bras qui lui tenait la taille. Régis Vergès mit ses mains sur les épaules osseuses de Nicole, la regarda bien en face avec des yeux paisibles et sûrs. « Je sais maintenant que Dagobert vous protège tous les deux. Ni Charles ni toi ne pouvez et ne pourrez jamais échapper à son charme de sorcier. » Je te répète que tu retrouveras celui qui deviendra ton époux, si aimé, si attendu. Nicole, ma jolie, as-tu la force de me croire? Je ne sais pas. Sorcier, vous aussi? Oh, qui sait, ma belle passiflore, qui sait? Allez, maintenant, rentre chez toi. Sache que tu es la plus belle fleur à mes yeux. Je t'embrasse le front. Quand je te retrouverai, tu verras que je ne t'ai pas menti.